Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Manuel Hippolyte, le slamiste, et David Morin au piano, merci pour leur talent. Et pour ce message, nous allons ce matin continuer avec une série qui s'intitule « N'aie pas peur, comment vaincre », une série de messages à chaque dimanche. « Comment vaincre les craintes, angoisses et phobies modernes ». Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes ici en personne à cette deuxième réunion, mais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent, qui vont écouter des portions de ce message par l'Internet et dizaines de milliers par Internet à travers le Québec et les nations et aussi à travers différentes émissions de radio ici au Québec, mais aussi des émissions de radio chrétiennes et par Internet qui retransmettent ces messages partout dans la francophonie. Nous croyons que cette série « N'aie pas peur, comment vaincre les peurs, craintes et phobies modernes » est extrêmement à propos en ce printemps de l'année 2009. Il y a tellement de choses qui prennent place autour de nous, qui serrent nos cœurs. Il y a, lorsque je lis, qu'il y a une personne sur quatre dans la province de Québec qui souffre en ce moment de dépression, de crise d'angoisse, de burn-out ou de divers troubles et carences mentales, émotionnelles ou psychologiques que nous voyons. C'est une multitude qui cherche la paix. Et au-delà de cette dimension qui est médicale, de gens qui en souffrent si sévèrement, il y a chacun d'entre nous qui combattons dans l'époque dans laquelle nous vivons de la crainte du virus H1N1 à aller à la récession et les pertes d'emplois. Il y a des gens qui sont assis ici, des gens qui vont entendre ce message, que la crainte et les possibilités de peur, de crainte sont partout autour de nous. Lorsque, hier matin, j'ai déjeuné avec un ami et puis un ingénieur ici au Québec qui me racontait que l'endroit où il travaille, c'est pourtant dans la technologie de pointe. Il est ingénieur dans une usine où ils contribuent du matériel pour les éoliennes. Et il y a quelques années, c'était encore l'avenir, mais dans les dernières semaines, sur 400 employés, il y en a 200 qui avaient été mis à pied. Et ça s'est multiplié partout autour de nous. Il y a des pères de famille, des mères de famille, des gens partout autour. Le cœur nous serre, l'inquiétude qui nous guette de tous les côtés. Et il est important que chacun d'entre nous puisse s'arrêter un instant, et ceux d'entre vous qui êtes avec nous pour les premières fois, et peut-être découvrir ou redécouvrir que la Bible est un manuel de paix extraordinaire, que la Bible adresse spécifiquement les craintes, les peurs et même les phobies. Saviez-vous que la Bible parle des phobies? Dans le texte qui est apparu à l'écran, notre texte thème de cette série de messages, nous avons ce passage de 2 Timothée qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. » Et le mot grec dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, le mot phobos, est un mot d'où nous tirons le mot phobie, qui veut dire courir, effrayer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, et nous remplit d'amour, et nous remplit de sagesse, ou de maîtrise, ou de discipline de soi, de la capacité d'être apaisé, la capacité d'être calme alors que tout est secoué autour de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle que des millions de personnes à travers le monde ont découvert, c'est qu'il y a dans la foi en Dieu une possibilité de force, une possibilité d'apaisement, une possibilité de guérison, et une possibilité d'équilibre et de paix dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos relations. J'étais heureux, encore une fois, c'est à chaque année depuis plusieurs années, mais comme voyageur du monde, j'ai été dans plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays, j'ai vu des chrétiens partout à travers le monde. J'étais heureux cette semaine d'entendre à l'émission Larry King, il parlait des œuvres humanitaires à travers le monde, et il y avait un représentant de l'ONU qui disait que le mouvement chrétien évangélique est encore cette année, le mouvement 2008, le mouvement qui grandit le plus rapidement dans le monde entier, et le mouvement responsable du plus d'œuvres humanitaires communautaires dans le monde entier. Et la raison pour laquelle, à travers le monde, quelle que soit la couleur de la peau et quelles que soient les inquiétudes qui nous entourent, ou l'arrière-plan social, ou le pays, ou la culture dans lequel les millions, il y a 800 millions à 1 milliard de chrétiens évangéliques sur la terre, la raison pour laquelle c'est le mouvement qui grandit le plus vite dans le monde entier, la raison pour laquelle nous sommes plusieurs milliers ici ce matin à l'Église Nouvelle Vie, ce n'est pas la présentation d'une nouvelle religion, d'un nouveau rituel, mais une relation avec un Dieu vivant qui nous donne un esprit de paix. Et lorsque tu entres en contact avec le Prince de paix, il donne une force et une capacité que rien ni personne d'autre ne peut nous donner. Que ceux qui l'ont expérimenté applaudissent avec moi ce matin. Dans notre série « Comment vaincre les peurs, craintes, phobies et angoisses », nous allons regarder un texte magnifique ce matin. Nous allons prendre comme texte un des psaumes ou le psaume le plus connu du monde. Il y a bien des gens qui ne vont jamais à l'église, mais qui ont déjà entendu le psaume 23. C'est un psaume, l'Éternel est mon berger, et c'est un psaume qui est connu, utilisé à toutes les sauces. Souvent, on le voit dans des films, on le voit dans une scène de guerre. Tu vois un soldat qui est dans une tranchée avec les balles qui lui sifflent au-dessus de la tête, qui récite ce psaume. Souvent, nos amis américains qui mettent ça un peu partout. Tu vois des joueurs de football qui s'apprêtent à aller se défoncer le crâne, réciter le psaume 23 avant de partir. Et c'est souvent un psaume qui est récité lors des funérailles, parce que ça dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Mais je veux vous dire ce matin que le psaume 23 n'est pas un psaume pour les morts, il est un psaume pour les vivants. Ce n'est pas un psaume seulement qui promet la consolation dans la mort, c'est un psaume qui promet le calme et la confiance dans la vie. C'est quelqu'un qui n'est pas qu'annoncé sa mort, c'est quelqu'un qui dit « je ne manquerai de rien, Dieu me fait reposer, Dieu calme mon cœur, Dieu me dirige vers des eaux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » J'aimerais vous déclarer le psaume 23, pas un psaume pour les morts, mais un psaume aussi pour les vivants. Et pour le lire ce matin, j'ai pensé, moi je pourrais le réciter avec ma voix ordinaire, mais je me suis dit, ça serait extraordinaire si quelqu'un pourrait juste le réciter, réciter ce psaume magnifique. Alors j'avais plusieurs possibilités. Une possibilité serait de demander à des enfants, parce que pendant qu'on est ici, nous avons plus de 500 enfants qui sont dans nos classes à tous les dimanches. Il y a toute une dynamique de pastorale, jeunesse et adolescente toute la semaine. Et les enfants aussi, qui ont des classes adaptées à leurs âges et qui apprennent toutes les richesses des valeurs que Dieu a pour eux. Et nous avons deux jeunes filles magnifiques ce matin. Je vais les inviter à s'approcher. Iona et Evan Amico qui vont venir vous réciter, deux sœurs, qui vont venir vous réciter le psaume 23. J'aimerais que vous puissiez les applaudir alors qu'elles s'avancent. Deux belles jeunes filles. Venez-vous-en, les filles. J'avais le choix en demander à ces belles jeunes filles, ou tout simplement, parce que c'est tellement un psaume merveilleux, me promener dans les allées et demander à n'importe quel adulte de me le réciter, peut-être de demander au hasard. Et en ce moment, quand je fais ça, il y a trois rangées qui penchent la tête en même temps. Combien sont d'accord que ça devrait être les jeunes filles qui vont réciter le psaume 23 ce matin? Alors, applaudissez-la alors qu'elle vous récite le psaume 23.
Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen.
Allez, applaudissez-les fort. Allez, dites-le avec moi. Tu dresses une table devant mes adversaires. Tu oins ma coupe, ma tête d'huile. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Il y a une maman, moi je peux le faire parce qu'il y a une maman dans la première rangée qui fait une semaine qu'elle le fait. Et elle est là. Alors, merci Carole, merci à toute la famille pour cette merveilleuse lecture. Ce matin, du psaume 23, dans lequel nous découvrons, et on va regarder à son contexte dans un instant, dans lequel David nous donne un témoignage magnifique de comment sa foi en Dieu lui donne la victoire sur l'angoisse, ses inquiétudes. Et dans le psaume 23, le témoignage de David est tellement important parce qu'il est, ce que tellement d'entre nous recherchons. David dit, à cause de ma foi en Dieu, de ce Seigneur, de ma marche avec Dieu, il dit trois choses à propos de cette relation avec Dieu. Dans le psaume 23, il y a sept sources de stress qu'on retrouve dans ce psaume et les sept antidotes qui y sont donnés également. Et David dit, il me donne, trois choses qu'il a en introduction, il me donne une assurance pour demain. Il dit, je ne manquerai de rien, Le bonheur et la grâce m'accompagneront à tous les jours de ma vie. À cause de sa relation avec Dieu, il pouvait regarder à son avenir, regarder à son demain. David dit, la foi en Dieu donne cette capacité surnaturelle qui nous échappe tellement par nous-mêmes. Mais avec l'aide de Dieu, me rend capable de ne pas craindre pour demain. Me rend capable de ne pas laisser hier mon passé me voler mon aujourd'hui. Et me rend capable de ne pas laisser l'inquiétude pour demain me avorter ou dévorer mon cœur aujourd'hui. Il me donne une assurance pour demain et il m'apaise et me délivre. David dit, le Seigneur, cette relation avec Dieu me donne une assurance pour demain. Il m'apaise, il me délivre. Il dit, il me fait reposer. Il restaure mon âme. Et qu'il y a dans une relation avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion avec l'Esprit de Dieu, dans des moments comme ce soir où nous allons prier les uns avec les autres, et dans la simplicité d'un homme et une femme, un être humain qui va devant Dieu en prière à chaque jour et va dans la parole de Dieu, qu'il y a la possibilité d'un apaisement divin, que Dieu me délivre de liens du passé. Il me donne une assurance pour demain, m'apaise et me délivre, et il m'apprend à devenir. Il dit, le Seigneur me dirige vers des eaux de paix. Quand je marche dans la vallée même de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur parce que Dieu m'a appris une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, m'a donné une nouvelle force, m'a appris une nouvelle façon de vivre. Il m'aide à devenir quelqu'un qui est capable de vaincre ce qui me vainquait auparavant. Et il donne trois étapes vivantes, pertinentes et tellement applicables pour nous tous aujourd'hui sur comment vaincre les inquiétudes et les angoisses. Le psaume 23 nous dit comment vaincre les inquiétudes et les angoisses. Il faut reconnaître la présence du Dieu de paix. Il faut réaliser les promesses et possibilités du Dieu de paix. Et il faut recevoir personnellement le Dieu de paix. Je dois faire attention lorsque je mentionne ceci parce que nous avons dans l'Église plusieurs hommes et femmes qui travaillent pour différentes compagnies d'assurance. Et c'est magnifique. Les représentants d'assurance, ils ont tous de bons plans et vous devriez être assurés, faire attention à tout ça. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une police d'assurance au-delà de toutes les autres. Saviez-vous qu'il y a 7000 promesses dans la Bible? Il y a 7000. Lorsqu'on rencontre notre agent d'assurance, on veut toujours savoir, est-ce que je suis couvert? Est-ce que je suis couvert? Jusque où va ma couverture? Et j'aimerais vous déclarer ce matin qu'il y a une police d'assurance dans la Bible avec 7000 promesses pour vous et vous êtes couvert ce matin, hier, aujourd'hui. Dites à la personne près de vous, il y a une police à te proposer, elle est gratuite et elle est éternelle. Dites ça à la personne à côté de vous. Et il y a 7000 promesses et ceux qui le reçoivent avec moi ce matin, voulez-vous applaudir la police de vie, d'assurance vie du ciel. Comment vaincre inquiétude et angoisse selon le psaume 23? Première étape, il faut reconnaître la présence de Dieu, du Dieu de paix. Reconnaître son existence. L'auteur aux Hébreux nous dit, ceux qui s'approchent de ceux qui viennent à Dieu doivent croire premièrement qu'il est. Doivent croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette première étape vers la paix, et de s'arrêter et de reconnaître l'existence, reconnaître la présence, la fidélité du Dieu de paix, et de connaître sa nature et de comprendre son engagement. Non seulement l'existence de Dieu, mais l'engagement de Dieu. Non seulement la promesse de Dieu, mais la personnalité de Dieu. Lorsque le psalmiste dit l'Éternel, et le mot hébreu parle le Tout-Puissant, le Créateur, il y a un Dieu, il y a un l'Éternel, il y a un Tout-Puissant, mais il est aussi mon berger. Il est aussi un Dieu qui est personnel. Il est la nature de Dieu. Je dirais de cette façon, c'est la paix commence avec une reconnaissance du Dieu qui est créateur et qui est aussi créateur de l'univers, mais qui est aussi personnel. La connaissance de Dieu produit. Plus vous allez connaître qui est Dieu, plus vous allez connaître son engagement, sa nature, qui il est, son activité, ce qu'il peut faire dans la vie des êtres humains. Dans les paroles du psaume 67, regardez comme il est remarquable lorsque Dieu agit sur les êtres humains, que la connaissance et la connaissance de Dieu qui produit le calme, qui produit la consolation et la confiance. Et c'est l'ignorance de Dieu qui produit l'inquiétude, qui produit l'incertitude dans nos âmes. Et le psalmiste peint ce portrait de Dieu, dit, c'est l'Éternel, ce Dieu créateur de l'univers, il est aussi mon berger. Je ne manque de rien, il me conduit, il me rassure, il me restaure. Et la raison pour laquelle je ne crains aucun mal, c'est que je connais son nom. Je ne craindrai aucun mal. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je connais sa nature. Je sais qui il est. Et ce portrait, cette extraordinaire dualité d'un Dieu créateur de l'univers, mais proche et consolateur. Tous les écrivains de la parole de Dieu le soulignent à leur façon. Et Ésaïe, au chapitre 40, le dit de cette façon. 40, verset 10 à 12. Voici, c'est la diapo 8. Voici le Seigneur, le Créateur. Celui qui était au commencement de toutes choses. Il vient avec puissance, mais comme un berger. Et il prend soin de son peuple. Il prendra les agneaux dans ses bras. Je le dirais de cette façon. Le Créateur est aussi un consolateur. Je le dirais de cette façon. Le Dieu de l'infini est le Dieu de l'individu. Le Dieu tout-puissant est aussi un Dieu tout personnel. Le Dieu qui soutient la terre est aussi le Dieu qui veut prendre soin de toi. Et l'apôtre Paul dit, un simple regard sur la complexité de la nature, de l'univers, des origines de la vie partout autour de nous, nous rappelle et nous crie et nous proclame l'existence de Dieu, ce Dieu dont l'engagement est envers nous. Romains 1 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Sa création s'est révélée et lorsque nous contemplons l'univers et que nous contemplons son ouvrage. Il y a plus de 80%, certaines statistiques disent plus, 90% des êtres humains sur la Terre et des Québécois et Québécoises qui croient en l'existence de Dieu. Mais souvent, ce qui est de croire en l'existence de Dieu est une étape, mais ne produit pas la paix, ne procure pas la paix, à moins que vous entriez dans une relation avec ce Dieu et avec une compréhension que non seulement il existe, mais il est engagé envers moi. Et dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de prophéties, et une qui est fascinante, deux prophéties conjointes dans le livre de Daniel, où le livre de Daniel porte un regard sur, qui a été écrit il y a des millénaires, et il dit, voici, il va y avoir une caractéristique, que vous allez savoir que vous êtes dans la vraie modernité, dans les temps de la fin, dans la période de la fin. Il dit dans Daniel, voici ce qui va prendre place, une des marques des temps de la fin, c'est qu'il y aura une explosion de la connaissance. Il dit littéralement que dans les temps de la fin, knowledge will increase, la connaissance va augmenter. Ce que la Bible a prophétisé il y a des millénaires, c'est que la race humaine et les sociétés vont être sensiblement les mêmes au niveau de leur éducation, de leur connaissance, de la science accumulée pendant des siècles, mais il va y avoir une explosion de connaissances à la fin des temps. C'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes dans la période de la fin des temps. Et en effet, l'être humain a vécu son niveau de science ou de son niveau de connaissance a été le même jusqu'à il y a une centaine d'années. Mais depuis une centaine d'années, explosion de connaissances. Et le livre de Daniel dit, en même temps que les gens va y avoir cette explosion de connaissances, la connaissance de Dieu répandra la terre, se répandra sur toute la terre. Il dit littéralement, et on le voit sous nos yeux, et c'est quelque chose qui est magnifique, qu'il va y avoir de plus en plus, il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qu'en étudiant, et plus ils vont avoir d'outils pour comprendre la complexité de l'être humain et la complexité de l'univers, que plus ils vont comprendre par la science qui leur est disponible, plus leur conclusion va être, ça ne peut pas être par accident, il y a cette création et il y a un créateur. Et ça, on voit ça partout. J'ai jeûné avec un médecin qui est ici ce matin qui me disait avec sa vie entière comme scientifique et comme médecin, mais cette pensée de ne peut pas regarder à la création sans voir le créateur. Et une des choses magnifiques qui prend place, c'est qu'il y a des milliers et milliers de scientifiques que plus ils en arrivent, plus ils découvrent et étudient la complexité de l'univers, que ce soit la cosmologie, les origines de la vie, la biologie, qui en viennent à une foi en Dieu, même avant, après avoir été athée pendant longtemps. Je vous donne un exemple ce matin de Alan Rex Sandage et son témoignage est dans un livre d'un homme qui s'appelle Lee Strobel, qui a écrit, qui est un journaliste athée, un journaliste du Chicago Tribune qui a gagné plusieurs prix pour ses enquêtes criminelles. Et c'est un journaliste d'actualité, mais qui a fait un pèlerinage où s'est mis à investiguer toutes les déclarations du christianisme. Et à force d'investiguer tout cela et la science et tout ça, il est devenu un chrétien engagé, puis il écrit maintenant des livres magnifiques. Et dans un de ses livres, il donne le témoignage de Alan Rex Sandage, qui est appelé un des plus grands cosmologues du monde. C'est un protégé d'Edwin Hubble, l'inventeur du télescope Hubble. Il a gagné des prix prestigieux, dont l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'astronomie. Il est appelé par le New York Times le père de la cosmologie moderne. Et cet homme et ce scientifique, Sandage, lors d'une conférence à Dallas en 1985, a surpris l'auditoire entier en prenant place du côté de la salle, c'était comme une espèce de débat, mais il a pris place du côté des théistes, des croyants, et celui que tous reconnaissaient comme étant un athée, on s'attendait à ce que cet athée irréductible vienne défendre la position athée, lui qui était un athée irréductible depuis son enfance, était devenu, au sommet de sa connaissance et de sa carrière scientifique, un croyant dans le Dieu créateur de l'univers. Je vous donne une citation directement du livre sur l'événement qui a pris place à Dallas. Et Sandage provoqua une vague de consternation lorsqu'il prit une chaise du côté des athées et alla s'asseoir parmi ceux qui croyaient en l'existence de Dieu. Ce qui étonnait encore davantage dans ce contexte où l'on discuterait du Big Bang et de ses implications philosophiques, c'est qu'il avait décidé à l'âge de 50 ans de dire publiquement qu'il était maintenant chrétien. Le Big Bang, dit-il à l'auditoire médusé, qui buvait chacune de ses paroles, fut un événement surnaturel que nous ne pouvons expliquer à l'intérieur du monde de la physique tel que nous le connaissons. La science nous a amenés au premier événement, mais elle ne peut pas nous amener à la première cause. C'est l'émergence soudaine de la matière, de l'espace, du temps, de l'énergie, nous mène à un quelconque besoin de transcendance. C'est ma science qui m'a amené à conclure que le monde est beaucoup plus compliqué que ce que peut expliquer la science, dira-t-il plus tard à un journaliste. Ce n'est que par le surnaturel que je suis en mesure de comprendre le mystère de l'existence. Ne vous laissez pas endormir par ceux qui ont un peu de science et qui essaient de prétendre qu'il n'y a pas de science, que science et foi dans le Dieu créateur ne vont pas de pair. J'aime cette citation de Louis Pasteur, qu'on appelle le père de la science moderne, qui a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'y ramène. » J'aime cette citation de Ian Hutchison, qui est professeur et auteur de 30 livres, et professeur et responsable du département d'ingénierie et de sciences nucléaires à MIT. MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, est une des écoles les plus difficiles juste à entrer comme étudiant. Et lui, il est responsable du département d'ingénierie de sciences nucléaires de MIT. Il a dit ceci, c'est un croyant engagé. Il a dit ceci, il est dangereux pour un athée de réfléchir profondément sur ses convictions. Il pourrait se convertir. Et en ce moment, c'est quelque chose qui sidère la communauté scientifique. Il y a de plus en plus de scientifiques parmi les plus connus qui s'élève avec un témoignage de foi. Un de ceux-là qui a fait un coup et qui porte un poids extraordinaire s'appelle Francis Crick. Et il est. Et j'étais dans un taxi à New York récemment. Je revenais de New York et j'ai pris le taxi pour me rendre à l'aéroport. Et ce qu'une des choses qui est très drôle lorsque je vais à New York, c'est que les chauffeurs de taxi sont souvent des érudits, des philosophes. Ils peuvent te parler de n'importe quoi et discuter pendant des heures. Et je raconte souvent à mes enfants les discussions théologiques et philosophiques que j'ai eues avec des chauffeurs de taxi à New York à 6h15 du matin. Et ça faisait pas exception la dernière fois. C'était un philosophe qui venait de la Barbade, mais 25 ans là-bas à New York. Et on s'est mis à parler ensemble. Puis il m'a dit moi c'est il a su que j'étais pasteur, il m'a dit, moi, c'est en lisant Cricks, c'est en lisant Life Itself, la vie était passionnée et c'était agréable la conversation, moins agréable quand je voyais ses deux mains comme ça alors qu'il était passionné et qu'il conduisait la voiture. Il dit, puis il passait le temps, il s'est retourné pour me parler, à me raconter son témoignage et il me disait, moi, c'est quand j'ai lu Life Itself de Cricks que j'ai réalisé que le Dieu de la Bible était le Dieu créateur, etc., etc. Et Cricks a dit ceci, et lui, c'est le récipiendaire du prix Nobel de science parce qu'il est co-découvreur. C'est lui avec son collègue qui ont découvert la structure moléculaire de l'ADN qui a transformé toute la science moderne. Et lui a dit ceci, un homme honnête intellectuellement, scientifiquement, armé de toute la connaissance disponible à l'être humain, à l'époque moderne peut seulement déclarer que dans un certain sens, les origines de la vie apparaissent présentement être pratiquement un véritable miracle. Les conditions nécessaires à conduire aux origines de la vie sont tellement nombreuses, tellement variées et infiniment complexes que le mot miraculeux est la seule explication plausible à l'homme de science moderne. Ne laissez jamais personne essayer de vous camper et de vous dire qu'il n'y a pas de scientifique qui croit en Dieu. Va apparaître à l'écran une liste de noms, c'est des centaines de noms. J'aimerais que les PowerPoints commencent à apparaître un après l'autre. Il y a des centaines de noms et je vais les nommer un par un. Non, je ne ferai pas ça ce matin. centaines de noms de scientifiques qui œuvrent dans toutes les sphères de la science à travers le monde et qui déclarent en fait ce que le psaume 23 déclare, qu'il y a Dieu éternel, il est le créateur de toutes choses. Et Isaïe dit, ce créateur de toutes choses, il est aussi engagé envers moi, le Dieu puissant de l'univers, il est aussi le berger tendre qui s'occupe de ma vie. Je vous donne une dernière citation, celle de l'astronome Robert Jastrow, qui avec beaucoup d'humilité explique son pèlerinage. Il dit, pour le scientifique qui a vécu selon sa foi, la diapo 25, pour le scientifique qui a vécu selon sa foi dans le pouvoir absolu de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Et alors qu'il franchit la dernière pierre, celle de l'accumulation empirique époustouflante de toutes les découvertes scientifiques de ce siècle, il est accueilli par un groupe de théologiens qui étaient déjà assis là depuis des siècles, proclamant que Dieu est le Créateur. La parole de Dieu nous dit, et ce Créateur, celui qui veut trouver la paix, doit venir et reconnaître premièrement l'existence, la présence de ce Dieu Créateur, mais que ce Dieu Créateur est engagé envers l'être humain. Et lorsque toute la parole de Dieu enseigne ce concept du souverain qui est un berger, du Dieu créateur qui est le Dieu consolateur, il y a une clé extraordinaire qui est donnée par l'apôtre Pierre qui l'appelle le berger souverain. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, dit, « Je ne manquerai de rien, déchargez-vous sur lui, sur le souverain berger, le créateur qui est consolateur, le berger, l'Éternel qui est mon berger, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Car lui-même prend soin de vous. Lui-même peut vous affermir et lui-même peut vous fortifier et vous rendre inébranlable. Quand Jésus a enseigné son message contre les inquiétudes et l'angoisse et les phobies, le sermon sur la montagne, il a dit trois fois dans le texte, « N'aie pas peur, ne crains pas, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. » Et il dit, « Le Dieu le Dieu qui est créateur est aussi votre Père. » L'apôtre Pierre dit, voici comment la première étape pour trouver la paix à chaque jour et vaincre la peur, c'est qu'à chaque jour tu viens et tu te décharges sur lui. Il y a un Dieu, il est un souverain, il est un berger, il est créateur, il a toute capacité, il est proche de toi et tu peux te décharger sur lui. Le mot grec est un mot absolument magnifique. C'est un mot qui était utilisé dans un seul contexte, le contexte d'un esclave qui portait une charge et qui en était déchargé. En ce moment, moi, je porte à peu près 50-75 livres. Le poids est à peu près ça. Et c'est saisissant comment, après à peine quelques minutes, tu sens le poids. Comment ça, le poids est lourd. Et dans le contexte du Nouveau Testament, les historiens nous parlent d'esclaves qui portaient 100 livres à tous les jours de leur vie et qui pouvaient arriver à un moment, les Écritures mentionnent ces moments. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, il parle à ceux qui ont libéré les esclaves. Il parle littéralement du moment où l'esclave pouvait être racheté et où le jour où il était racheté, c'était une scène absolument « déchargez-vous sur lui ». Et il y a des écrivains comme Josephus Flavius qui parlent de ces moments où l'esclave qui a travaillé toute sa vie finalement avait remboursé sa dette. Et ce qu'il avait porté et qu'il l'écrasait à chaque jour, que littéralement, il arrivait une journée et il était déchargé de son fardeau. Il y en a d'entre vous qui portez un fardeau d'inquiétude à chaque jour, qui rend tout difficile, qui rend tout pénible, vous le portez au-delà de toute la vie qui est autour et toutes les vraies circonstances. L'inquiétude est ce poids. Et l'apôtre Pierre dit, vous avez un souverain sacrificateur et tu peux venir à chaque jour et tu peux te décharger sur lui à chaque matin de ton fardeau et lui est capable de te donner une paix et de te rendre paisible et de te rendre inébranlable. Il n'est pas seulement un éternel, il est un berger, pas seulement un Dieu, il est un père, il n'a pas seulement une existence, il est engagé et il est capable de porter ton fardeau qui donne la paix. Que ceux qui l'ont vécu disent amen dans ce lieu ce matin. Jésus a même dit ceci, il ne manquait pas ceci. Jésus a même dit, lorsqu'il enseignait sur ce modèle du Père, sur ce portrait du Père, Jésus fait même un parallèle avec des pères humains. Il dit, il donne des paraboles comme celle du fils prodigue, et il dit littéralement ceci. Comprenant à quel point il est parfois difficile pour certains d'entre nous de saisir le modèle du Père. Certains d'entre vous qui n'avez pas eu de Père, qui n'ont pas donné de modèle sur cette terre d'un Père, qui pense à vous, qui se préoccupe de vous, qui est fidèle, qui est responsable envers vous. Jésus arrive et il dit, si vous qui êtes humain, limité, imparfait, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père accordera-t-il son esprit de paix à ceux qui le demandent? Jésus dit, si vous regardez un père, si vous trouvez un père sur cette terre, et je sais qu'il y a des centaines de pères dans ce lieu, des centaines de pères, nous sommes très imparfaits, mais des centaines de pères ici dans ce lieu, ce n'est pas du chiquet, ce n'est pas un cliché pour vous, ce n'est pas peut-être. Il y a des centaines de pères qui sont ici, que vous savez que c'est vrai, que si quoi que ce soit menaçait votre enfant, donner votre vie pour votre enfant, vous le feriez comme ça. Ce n'est même pas une question, je ne me pose pas qui dira amen. Je sais qu'il y a des centaines de pères qui sont ici. Nos enfants sont plus précieux que nous-mêmes. Leurs vies sont plus précieuses que la nôtre. Donner notre vie demain, être là pour eux demain. Et Jésus dit, si vous qui êtes si limités vous êtes si imparfaits, si limités, vous pouvez vous occuper, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses? Donnera-t-il son Saint-Esprit, son Esprit de paix à ceux qui le demandent? J'aimerais vous dire que la raison numéro un pour laquelle je peux vaincre l'inquiétude, c'est cette révélation que Dieu existe, mais il est engagé envers moi. Il est pas seulement éternel, il est un berger. Il est pas seulement mon Dieu, il est mon Père. Et je peux me décharger sur lui et recevoir sa paix et recevoir son attention. Et comme dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des moments où Jésus utilise le Père prodigue et d'autres, le Père du Fils prodigue et ses paraboles, ces moments où un Père humain donne une espèce de modèle humain de l'engagement de Dieu envers les hommes, je crois qu'il y a, à travers le monde, des gens dont le témoignage devient une parabole moderne. Un des Pères qui, pour moi, illustre plus magnifiquement l'engagement du Père envers nous, l'Éternel qui est notre berger, le Dieu qui est notre Père, est un homme qui s'appelle Dick Hoyt. Dick Hoyt est un homme qui est maintenant célèbre à travers le monde. C'est un chrétien engagé. Lui et son épouse sont des chrétiens de longue date. Il y a plusieurs années, ils ont donné naissance à un fils, Rick Hoyt, qui est né avec la paralysie cérébrale et la tétraplégie spastique, complètement paralysé, incapable de parler. Et le père va maintenant à travers le monde témoignant avec son fils comment sa foi en Dieu a permis à son épouse et à lui de traverser cette épreuve et de trouver la paix. Et une des choses particulières qu'ils font, c'est qu'un jour, alors que le père courait avec son fils dans sa chaise, le fils a dit, « Papa, quand tu me portes comme ça, c'est comme si c'était moi qui cours, c'est comme si tu me permets de faire tout ce que je ne pourrais pas faire par moi-même. » Et depuis ce temps-là, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années, ils ont fait 60 marathons et triathlons ensemble. Ils vont partout à travers le monde. Et à chaque endroit où ils vont, ils donnent un témoignage de la foi en Dieu, de leur verset thème, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ils ont produit, sur leur site Internet, ils ont produit un clip, une chanson qu'on va regarder dans un instant, qui avec des images du papa et du fils qu'on va voir dans un instant. Et il y a plus de 35 millions de personnes qui ont visionné la vidéo « Redeemer » sur l'Internet, dont les paroles témoignent du Dieu créateur et consolateur. Puis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je donne juste un extrait des paroles qui dit « Qui a placé le soleil qui se lève à chaque matin? » Qui a créé les océans, les marées, l'univers? Qui tient les galaxies, les étoiles, les astres dans sa main? Qui a créé ce monde, si ce n'est mon Dieu, mon Père? Je sais que mon Rédempteur vit. Le même Dieu qui a mis les astres et les planètes en orbite court vers celui qui est faible, fatigué, usé et triste. Et la même main qui me soutient quand je suis brisé a vaincu la mort pour me permettre de me relever. Et Hoyt, Dick Hoyt, dit très clairement sur son site Internet, il dit ceci. Il écrit sur son site, « Notre verset, je peux tout par celui qui me fortifie. Je crois que Dieu voulait qu'à travers ma relation avec mon fils Rick, comme je l'aime, comment je le porte, comment j'aime être avec lui, ma passion de le soutenir, de soutenir mon enfant que j'aime, que le monde, qu'à travers cet amour, que le monde puisse réaliser que Dieu désire être leur père et qu'ils peuvent traverser toutes leurs épreuves s'ils apprennent à se confier en Dieu. Plusieurs m'écrivent et me disent, « J'aimerais tellement avoir un père comme vous. » Et je leur réponds, « Vous en avez un bien plus grand, fidèle et capable que moi. Dieu est votre père. L'Éternel est mon berger. Dieu est mon père. » Ouvrez vos cœurs ce matin et reconnaissez la présence du Dieu de paix. On regarde le clip ensemble.
Who taught the sun where to stand in the morning? And who taught the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquered death to bring the victory.
Dieu engagé envers nous. Je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie et dans ma faiblesse, lorsque je suis incapable, lorsque je suis sans ressources, il est là, il me porte, il est l'Éternel et il est mon berger. Il est Dieu et il est mon Père. Je peux me décharger sur lui et mon Père me porte dans ses bras. Le Créateur de l'univers est aussi le berger qui me porte et que ceux qui le reçoivent et qui le croient crient « Amen » avec moi ce matin et applaudissent ce Dieu de l'univers. Comment vaincre? Comment vaincre les inquiétudes, les angoisses modernes? Il faut reconnaître la présence de Dieu, du Dieu de paix. Mais il faut aussi réaliser les promesses et possibilités du Dieu de paix. Et ces promesses sont là dans les pires moments. Il y a un des versets qui est extraordinairement révélateur dans ce psaume. Si on regarde la diapo 33, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer, il restaure mon âme. » Et voici dans quel contexte. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Le mot hébreu, c'est dans les pires ténèbres, la pire noirceur. « Je ne craindrai pas, car tu es avec moi. » Et dans ce moment, David ne faisait pas de poésie. Il était un poète et un artiste magnifique, mais il ne faisait pas une poésie utopique. Il racontait sa vie. Il y a des psaumes dont nous ne savons pas la provenance, on n'est pas certain du contexte, on peut savoir parfois l'auteur, plusieurs des psaumes, on connaît l'auteur, mais on ne sait pas toujours quel était le contexte dans lequel le psaume a été écrit. Mais le psaume 23 est un psaume dont nous connaissons le contexte. Nous savons que David l'a écrit, ceux d'entre vous qui voulez approfondir un peu, vous allez voir dans 2 Samuel chapitre 15, vous allez voir le récit des événements dans la vie de David où il a écrit ce psaume. David a écrit ce psaume alors qu'il était dans le désert de Judée. Il y a des images de ce désert qui vont apparaître à l'écran jusqu'à la dernière, un désert que j'ai visité. J'étais avec un guide bédouin qui donnait tous les endroits historiquement où les historiens sont certains que c'était dans ces endroits, dans ce désert, ces vallées-là que David avait écrit ce psaume. Mais David a été, on a une photo là avec quelques pasteurs qui étaient avec moi dans le désert de Judée. Et il y a, David est à la fin de sa vie. Et il a commis des erreurs terribles. C'était l'homme qui était selon le cœur de Dieu, un homme qui avait été un guerrier extraordinaire, un homme de courage, un bâtisseur, un adorateur, restaurer un peuple à Dieu, bâtir pour Dieu. Mais dans l'automne de sa vie, il commet plusieurs erreurs. Et là, il se retrouve dans un moment de sa vie où, après avoir déçu sa famille, brisé sa famille, après avoir souillé son témoignage dans sa famille, il y a un éloignement entre lui et son fils adulte, Absalom. Et le fils est devenu tellement perturbé. Le fils est tellement rempli de rancœur, de haine, de déception qu'il se tourne contre son père. Et le fils chasse le père du palais. Et il est en exil dans le désert de Judée alors qu'il y a des soldats et qu'il y a des meurtriers de Absalom qui le pourchassent pendant des mois pour mettre fin à sa vie. Alors c'est un homme qui a honte, c'est un homme qui pleure, c'est un homme qui a de la peine, c'est un homme qui a peur, c'est un homme qui marche dans une nature qui est traître et qui est terrorisante, de le froid de la nuit, les bêtes sauvages, les ténèbres absolument indescriptibles à moins de les avoir d'avoir vécu d'être là, et le tourment dans son âme. Et à cet endroit où il avait été comme jeune homme, où il avait été berger, à cet endroit, alors qu'il était berger et qu'il s'était occupé des brebis de son père, à cet endroit où, pour la première fois, comme un adolescent, il avait découvert, il avait entré en relation avec ce Dieu qui était devenu sa paix et sa force. À la fin de sa vie, il est ramené au même désert. Et il est ramené à un endroit où Dieu seul peut être sa paix, où l'Éternel peut être son berger. Et il dit, même quand je marche la vallée de l'ombre de la mort, il y a des moments dans nos vies où il y a seulement à travers la foi en Dieu que je peux trouver la paix. Et il décrit ces vallées. Et la Bible est décrite de manière saisissante à travers toutes les Écritures. Il y a plusieurs vallées dans la Bible qui représentent des expériences humaines que nous connaissons tous. Il y a la vallée du trouble, des difficultés qu'on trouve dans Josué, la vallée de la colère. La vallée d'accord, la vallée de la colère, la vallée des difficultés, la vallée de la défaite. C'est l'échec dans une vie, c'est l'échec au travail, c'est l'échec d'une relation, c'est l'échec dans une famille, c'est le déchirement, la déception, la trahison du cœur qui a cette bile, ce poison de colère qui s'entremêle à la peur de qu'est-ce qui va m'arriver demain. La Bible parle de la vallée des larmes. La vallée des pleurs, la vallée de Baca, la vallée où il y a des larmes. Et David a même dit à un moment, il y a des larmes que je suis arrivé à des moments où mes larmes étaient ma nourriture. La seule chose que je pouvais faire, c'était de pleurer. C'est des gens qui sont ici, qui pleurent sur une relation, qui pleurent sur un divorce, qui pleurent sur des enfants qui ont quitté. Des gens qui sont ici, qui pleurent sur une trahison, sur un abus, sur une violence qui a été faite, sur une injustice que vous avez commise, sur un deuil, sur un être cher qui est disparu. C'est la vallée du trouble, la vallée des larmes. Il y a aussi dans les Écritures la vallée du péché, la vallée de la honte, la vallée de la culpabilité. C'est la vallée que David connaissait bien, parce que c'est lui qui avait amené cette épée sur sa maison, c'est lui qui avait amené ce trouble sur sa maison à travers son infidélité, à travers le mal qu'il a fait. Il s'est retrouvé dans ce tourbillon. Alors qu'il est en exil, vous pouvez être sûr que le soir, alors qu'il marche dans les ténèbres, il sait le mal qu'il a fait. C'est une vallée de culpabilité. Dans le livre de Osée, il dit, voici, je sais, il parle à un peuple qui est dans la vallée de la rébellion, la vallée de la culpabilité et du péché. Il leur dit, même si vous êtes dans cette vallée-là en ce moment, j'ouvrirai pour vous une porte d'espoir. Je peux toujours donner une porte d'espoir là où il y avait la vallée des larmes et de la colère. Et dans ce contexte-là, vous avez besoin de chaque personne ici d'avoir l'honnêteté de cœur de comprendre ceci. Notre nature humaine minimise le péché avant qu'on le commette. La nature humaine minimise le péché avant qu'il soit commis. Elle minimise les conséquences. Les scénarios se font si tu n'es pas éclairé et que tu n'es pas illuminé par l'Esprit de Dieu à chaque jour. Il y a plein de gens commettent des choses parce que dans leur pensée, ils en viennent à minimiser le péché, à minimiser l'impact, les conséquences. Ils ne voient pas le mal qu'ils vont se faire, le mal qu'ils vont faire à leur famille, à leurs enfants, à eux-mêmes, aux gens autour d'eux. Et voici ce que la chair, voici ce que notre nature et nos limites humaines nous amènent, à minimiser le péché avant de le commettre et à le multiplier après que tu l'as commis. Après que tu l'as commis maintenant, il le multiplie. Il te dit, c'est fini. Tu peux plus t'en sortir. Tu pourras jamais reprendre ta vie. Tu pourras jamais reprendre ton appel. Tu pourras jamais reprendre ton ministère. Tu pourras jamais resservir Dieu. Tu pourras jamais te sortir de ce trou. Et comme la première portion est un mensonge, comme il y a ce mensonge dans la minimisation du péché, de son impact et de sa gravité, je veux déclarer à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, c'est également aussi gravement un mensonge de penser que tu ne peux pas te sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Tu as le Dieu de la résurrection comme Dieu. Il est capable de te pardonner, de t'effacer la faute passée et de te redonner une paix avec lui, avec toi-même et avec les gens autour de toi. Quelqu'un devrait dire oui. La vallée du trouble, la difficulté, c'est dans plusieurs des citations extraordinaires de Martin Luther King. Martin Luther King a dit, c'est l'amertume, c'est l'aveuglement. Bitterness is blindness. Et c'est la situation où, dans la vallée de l'abandon, de l'agonie, dans la vallée des accusations, dans la vallée où est-ce que tu as été abandonné, et la vallée qui devient une vallée d'amertume, tu deviens aveugle. Aveugle, bitterness is blindness, aveugle à tout ce que Dieu pourrait faire en toi. David dit, même quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, des ténèbres profondes, j'ai trouvé une paix en Dieu. Et quelqu'un dira, comment? Comment? Comment est-ce qu'on peut trouver cette paix en Dieu? Et David termine ce psaume, ça va être la dernière partie, dernière pensée du message. Il nous dit comment vaincre les inquiétudes et angoisses, reconnaître la présence du Dieu de paix, réaliser que même dans la vallée de l'ombre de la mort, réaliser les promesses et possibilités du Dieu de paix. Comment le faire? Comment s'emparer de cette paix? Il faut reconnaître la présence du Dieu de paix, réaliser les promesses et possibilités du Dieu de paix. Et il faut recevoir personnellement le Dieu de paix. David, dans ce psaume, en 6 petits versets, 17 fois utilise « je »,« moi »,« mon ». Je, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans un vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dresse une table devant mes adversaires. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront moi à tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. David dit, c'est pas une doctrine, une théologie, une religion, un changement de religion qui amène la paix au cœur humain. C'est lorsque tu reçois le Dieu de paix personnellement. Et David puise dans son arrière-plan, son expérience de jeunesse comme berger, pour nous donner trois métaphores, trois images et portraits extraordinaires de ce qu'il désire, ce que Dieu désire et peut puissamment faire dans nos vies pour nous donner personnellement la paix. Tu prépares une table devant, il dit Dieu, tu prépares une table devant mes ennemis, tu soignes ma tête avec de l'huile et ma coupe déborde. Tu prépares une table devant mes ennemis. Il y a tout un symbolisme des Écritures souvent qui est tellement loin de notre réalité à nous. La majorité d'entre nous n'avons jamais été bergers, on ne s'est jamais occupé des brebis. Et c'est fascinant parfois, même les mots qu'on utilise, les mots de la Bible, à moins qu'ils soient expliqués, souvent on n'est pas certain. Je souris toujours de réaliser comment juste le mot pasteur crée toujours un impact. Mon épouse est en train de jouer au golf avec une dame, elle lui parle du Seigneur, parle de la foi, la femme est ouverte, elle trouve ça magnifique, et tout à coup la dame lui dit, hey, ton mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mon mari, c'est un pasteur. Et la madame, les chocs, son bâton de golf, et est dans un état de choc à partir de ce moment-là. Et parfois, c'est même drôle, les gens sont juste, c'est quoi ce pasteur? Et ma fille me racontait, quelques années, elle avait un ami, et puis, hey, ton père, hein, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton père? Puis là, elle dit, mon père, il est pasteur. Puis le petit gars, il a rien dit. Ah, pasteur, wow. Il a rien dit, mais 6 mois plus tard, pour faire la conversation avec ma fille, il dit, puis ton père, il travaille-tu toujours dans le lait? Elle dit, comment ça? Elle dit, comment dans le lait? Ben, ton père, il pasteurise du lait. Ben. Il pensait que j'étais un pasteurisateur. Il pensait que j'étais un pasteurisateur laitier. Souvent, on lit les mots de la Bible, mais on ne comprend pas les contextes. Parce qu'on lit, l'Éternel est mon berger, et tu dresses une table devant mes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? David avait été berger, il savait que pour comprendre le berger, il faut que tu comprennes la brebis. Et le symbolisme, l'image de la brebis, c'est qu'elle était dépendante. La brebis est sans défense. Elle a des ennemis, des adversaires qu'elle ne peut pas se défendre, qui sont au-delà. Vous ne verrez jamais un numéro de cirque. Et voici le dompteur de brebis. Vous ne pouvez pas voir un numéro de cirque comme ça, parce que la brebis n'a pas de dents, la brebis n'a pas. Et sans, c'est pas que Dieu nous appelle sans ressources, mais il délimite, il démontre les limites humaines. La brebis ne sera jamais particulièrement brillante pour s'en sortir tout seul. Vous verrez jamais un numéro du Cirque du Soleil. Et voici le grand Dracard et sa brebis géniale qui fait toutes sortes de trucs. Là, tu vois la brebis faire ben non. La brebis est sans défense. Elle peut pas courir vite. Elle n'a pas de dents. Elle peut pas se défendre. Et la brebis n'a pas les ressources en elle-même pour se défendre. Elle est dépendante du berger. Et David avait vécu plein de fois avec des animaux sauvages autour que c'est lui qui amène les brebis à l'endroit, sur le plateau, à l'endroit où elles peuvent se nourrir. Et pendant que tu es là et que tu dors et que tu es bien, tu peux être en paix parce que c'est moi qui s'occupe de tes ennemis. C'est moi qui te garde, c'est moi qui te dirige. Et David dit, ma seule paix, lorsque tous les hommes m'auront oublié, lorsque toutes les autres m'auront rejeté, le Dieu de l'univers me met une table. C'est lui qui me permet de me nourrir, de me trouver mon repos, parce que c'est lui qui va me défendre sur mes ennemis. Il dirait de cette façon, arrête de t'inquiéter, c'est lui qui a effacé toutes tes dettes. Arrête de t'inquiéter, c'est lui qui s'occupe de tes ennemis. Arrête de t'inquiéter, c'est lui qui porte ton passé, porte ton présent et porte ton avenir. Arrête de t'inquiéter, quel que soit l'ennemi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi. Vous savez, parfois, il y a des portraits humains. Ce portrait-là, David dit, la brebis pouvait être en paix parfaite parce que tout est payé. C'est le berger qui s'occupe de tout. Quand j'étais jeune garçon à Saint-Michel, je me souviens d'un moment qui m'avait marqué. J'avais 9 ans, 10 ans, peut-être 11 ans. Et puis, on est arrivé de... On passait des temps, on avait beaucoup, tout le monde avait dans le quartier, avait toutes sortes de problèmes financiers. Et ma mère, on essayait d'arriver, puis souvent on était en retard sur le loyer, puis tout ça. Et je me souviens d'une fois où on est arrivé de l'école, puis le propriétaire avait mis une femme dehors. Il avait mis son stock sur le bord de la rue. Il y avait des meubles sur le bord de la rue. Il y avait des appartements meublés. Fait qu'il y avait des gens qui n'avaient presque rien. Mais elle était là avec ses sacs et ses enfants sur le bord de la rue. Et je me souviens, puis je pourrais vous dire, j'étais tout jeune, mais je pourrais vous dire le nom du monsieur, ce que je ne ferai pas maintenant. Je me souviens du propriétaire qui était revenu, puis elle a fait signe comme ça à ma mère en voulant dire, c'est toi la prochaine. Pay up or you're out. Je me souviens de l'inquiétude qui la rongeait, puis je ne sais pas comment elle avait fait. J'étais trop jeune, elle me disait pas tout. Je sais pas comment elle avait fait. C'est-tu quelqu'un de sa famille qui avait prêté des sous, quoi que ce soit. Elle avait tellement travaillé, fait d'overtime qu'elle a réussi à payer. Je me souviens d'un soir que ma mère est arrivée. Ma mère, c'est une femme forte, jamais, toujours de bonne humeur, tout ça, mais je sentais l'inquiétude depuis des semaines. Et je me souviens qu'elle est arrivée, puis elle avait dit le loyer est payé. Puis elle est arrivée dans la maison, puis elle avait fait la fête. C'était un jeudi soir, jour de paye, puis on avait mangé pizza et cream soda. Ce qui était le top. Ce qui était absolument l'expérience ultime. Puis il y en a d'entre vous qui disent, hey, j'ai faim, là, c'est bon, même en ce moment, ça sera pas pire. Ça sent bien, ça achève. Pizza et cream soda. Et je me souviens d'avoir vu ma mère ce soir-là tellement, et ça m'avait frappé, je la regardais parce qu'elle était tellement carefree, tellement joyeuse, elle riait, puis la dette avait été payée. Il y en a d'entre vous, le Seigneur dit, arrête de t'inquiéter pour une dette qui est payée. Arrête de t'inquiéter pour quelque chose que j'ai porté. C'est moi qui va te donner ton repos et c'est moi qui va s'occuper de tes ennemis. Quelqu'un devrait dire oui. Et même table, c'est personnel. Dieu va s'occuper de mes ennemis. Il va oindre ma tête d'huile. Et tous les bergers savaient que c'était une des tâches les plus importantes, que lorsque les parasites s'incrustaient, que les parasites s'infiltraient dans les oreilles, dans les yeux, dans la tête, sur les plaies de la brebis, que c'était son travail de prendre l'huile pour amener, c'était comme un onguent, un apaisement, un antibiotique, et que sans cette huile, les parasites rendaient la douleur, le tourment était tel, c'était commun pour un berger qui était négligent de voir la brebis courir de toutes ses forces et se fracasser la tête sur une pierre juste pour faire arrêter la douleur, le tourment. C'est pas très loin de nous en 2009, alors que 4-5 personnes par jour au Québec s'enlèvent la vie, puis courent se fracasser la tête sur une pierre parce que leurs pensées les tourmentent. Et Dieu dit, c'est un Dieu personnel que tu peux recevoir. Et à chaque jour, et ceux d'entre vous qui l'avez expérimenté, je vais vous demander de m'appuyer parce qu'il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de l'entendre. Il est possible de venir à Dieu, de nous décharger sur lui. Et l'onction du Saint-Esprit vient. C'est pas mystique, c'est pas bizarre. C'est Dieu lui-même qui vient par son esprit. Et il met une huile sur ma tête et dans mes pensées. Et il calme mon cœur et il apaise mon âme. Il est mon berger. Il s'occupe de mes ennemis. Et il me donne une paix là où il y avait tourment. Que ceux qui l'ont vécu disent amen. Et la troisième et dernière chose, pendant que les musiciens s'approchent, la troisième et dernière chose personnelle, il dit, David dit, voici comment ce Dieu-là est personnel. Il faut que tu reconnaisses le Dieu de paix. Il faut que tu découvres à nouveau. Il faut que tu puisses découvrir et te reposer dans ses promesses. Puis il faut que tu le reçoives personnellement. Il dit, ce Dieu de paix-là, il va mettre une table devant tes ennemis, il va mettre une huile sur ton, apaiser tes pensées. C'est comme ça que tu vas vaincre la crainte et l'angoisse et les phobies. Mais aussi, il va te donner une coupe qui va déborder. Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle de la coupe, l'apôtre Paul dira, ces mots, c'est la dernière diapo de l'avant-midi, dans Romains 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse et rende votre coupe débordante de paix dans la foi, que vous débordiez d'espoir par la puissance du Saint-Esprit. La coupe qui déborde dans la culture du Moyen-Orient a une grande signification. Elle parle de satisfaction, mais elle parle aussi de l'engagement de l'autre envers la personne qui l'a. Je vous le donne de cette façon, dans les endroits de désert et autres, et dans la culture du Moyen-Orient, l'hospitalité est quelque chose que tu devais faire. Tu devais accueillir un étranger dans ta maison. Puis une des choses, un portrait de satisfaction, c'est, si vous pouvez imaginer ça, c'est que la personne qui te reçoit te donner tout ce que tu avais besoin. Tu sais, tu te retrouves dans ce moment où tu dis, je suis plus capable de manger un autre boucher. Tu sais, j'ai plus. Il y en a entre vous qui me regardez en ce moment et vous dites, mais franchement, moi, je me laisse jamais aller jusque-là. Je vous crois pas. Alors, t'es là et puis t'es juste bien, là. T'es plein, t'as plus faim, t'as plus soif. Ton autre te dit, est-ce que je t'ai bien? Est-ce que je me suis bien occupé de toi? Oui. Puis là, tu lui donnes ton, il prend ton verre, puis il faisait ça, c'était un signe. Et il versait dans le verre, il le faisait jusqu'à temps que ça déborde en voulant dire, t'es là, t'as plus faim, t'as plus soif, puis je fais déborder ta coupe. Est-ce que tu es satisfait? Et c'est Dieu qui dit, il y a une satisfaction du cœur et de l'âme et des pensées que aucun milliardaire ne peut s'acheter, qu'aucune religion ne peut donner, qu'aucune carrière ne peut donner. C'est une satisfaction que moi, David, dis, moi, j'ai goûté à tout. J'ai tout expérimenté, les richesses, j'ai tout connu. Mais il y a une satisfaction, il y a une coupe d'espoir et d'espérance que seulement Dieu est capable de rendre débordante. Mais ça voulait dire autre chose aussi. Lorsque tu es arrivé dans une maison au Moyen-Orient, et tu étais un étranger, la personne qui t'accueillait était obligée de t'accueillir. Et une des choses que tu faisais, c'est qu'elle te donnait un verre, puis elle t'en donnait à boire, puis t'en buvais. Et si toute la soirée, quand tu avais soif, tu lui redonnais ton verre, puis t'en donnais d'autres. T'en donnais d'autres. À un moment donné, dans la soirée, c'était une manière polie de faire les choses. Tout à coup, il y a l'invité qui arrive, il étire sa visite. Il est là depuis longtemps. Et la personne qui l'a accueilli, lui en a donné. Puis à un moment donné, il tend son verre, comme ça, son verre est vide, il tend son verre. Puis l'autre, il en donne plus. Ça, ce que ça veut dire, c'est « tu as été assez accueilli ». Time to go, baby! Est-ce que vous me suivez? Ce que ça veut dire, c'est « goodbye ». Et je vais vous avouer, ma femme est ici. Moi, quand je me suis marié, c'est ma femme qui m'a éduqué dans beaucoup de choses. J'étais un petit peu un diamant brut, un peu brutal. Et moi, ça, il y a des gens qui sont ici qui l'ont déjà vécu, c'était pas méchant. Mais moi, pour moi, j'étais assis, puis ma chanteuse faisait un beau souper, puis on accueillait des gens. Puis quand pas que j'étais tanné, mais quand je considérais que la soirée était finie, je me levais, je m'en allais, moi. Je me levais à un moment donné, j'étais chez nous, puis je me levais. Bon, ben écoutez, c'est une belle soirée. Et puis les gens comprenaient qu'il fallait qu'ils... je fais plus ça aujourd'hui, là. Je vous parle dans le premier 6 mois de ma vie. Mais il y avait un signe au Moyen-Orient que tout le monde connaissait, que David connaissait. C'est que lorsque l'invité venait, membre de la famille qui était revenu, un fils prodigue qui revenait à la maison, que celui qui l'accueillait versait dans son verre, et même lorsqu'il était plein, il le laissait déborder et déborder et déborder. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est « je vais toujours continuer envers toi. Je te renverrai jamais dans la nuit. Je serai jamais tanné de toi. Ça sera jamais trop long pour moi. » Je t'accueillerai toujours, même lorsque tu te décevras, même lorsque tous les autres t'auront abandonné. Moi, ma coupe déborde, mais ta coupe débordera toujours. Je ne te renvoierai jamais dans la nuit comme un étranger. Tu es mon enfant, je suis engagé envers toi. Et David qui avait commis toutes les erreurs du monde et qui avait tout déchiré, tout bousillé. Et dans le désert, il dit, l'Éternel est mon berger. Et même quand tous les autres sont tannés de moi, même quand tous les autres m'ont laissé dans la nuit, ma coupe déborde d'espoir et de confiance et d'assurance parce que l'Éternel est mon berger. Et j'ai pas peur pour demain parce qu'il va s'occuper de moi et que ceux qui le croient disent un dernier amen et applaudissent avec moi le Seigneur. Allez, applaudissez fort, rien de plus beau que l'engagement de Dieu. La dernière minute de cet avant-midi, j'aimerais vous inviter à pencher la tête pendant un moment. Nous allons prier ensemble. Je veux faire une invitation ce matin. à plusieurs groupes, plusieurs catégories de personnes, par dizaines. À la première réunion, c'était totalement magnifique de voir le nombre de personnes qui ont répondu à cet appel. Si vous êtes ici ce matin, les têtes penchées, s'il vous plaît, les yeux fermés dans ce moment de recueillement, avant que la vie nous aspire et qu'on retourne dans le tohu-bohu de nos vies. La voix de Dieu se fait entendre ce matin. Il dit, viens à moi, je t'appelle à moi. Je veux te guérir, je veux te consoler, je veux te fortifier. Je t'appelle chaque personne qui est ici. Si vous êtes ici ce matin, alors que les chrétiens prient passionnément de tout leur cœur pour cette action de l'Esprit, et vous dites, je veux reconnaître Dieu. Je veux reconnaître le Dieu de paix. Il y a des gens qui sont ici, vous avez toujours cru en Dieu. Vous êtes des enfants, des ados, des jeunes adultes maintenant, de parents qui sont chrétiens. Vous avez une connaissance, une compréhension de Dieu. Vous dites, c'est bien que des milliers de scientifiques, à travers leurs découvertes, en viennent à croire en Dieu, mais moi, je crois en Dieu. Mais Dieu dit, il y a un moment dans ta vie, au-delà de simplement croire à mon existence, tu dois prendre cet engagement vers moi. Tu dois me recevoir personnellement. Jésus a dit, si tu me reconnais devant les hommes, tu seras reconnu devant le Père. Mais si tu me refuses, me nies, me dénie devant les hommes, tu seras renié devant le Père. Il y a un moment, comme il y a une naissance physique, tu sais ta date de naissance, ta fête, ton anniversaire, il y a une naissance spirituelle. Un moment où pour toi-même, même si tes parents étaient chrétiens, même si ta femme est chrétienne, ton époux, ton épouse, tes frères, tes sœurs, ou même si vous avez toujours eu une connaissance générale de Dieu, il y a un moment où tu dois dire, il n'est pas seulement l'Éternel, il est mon berger. Et mon Dieu, je lui demande pardon pour mes fautes. Je lui demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes manquements. Je l'accepte comme mon Seigneur à moi. Je veux reconnaître que Dieu est. Je veux reconnaître mon besoin de lui. Dans un instant, j'ai invité tous ceux qui veulent ce matin du mois de mai 2009, dire c'est mon matin où je vais reconnaître Dieu, reconnaître l'existence de Dieu, mais l'engagement de Dieu comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et les gens qui sont ici qui vont dire en ce matin du 17 mai 2009, c'est mon matin de reconnaître publiquement Dieu. D'autres personnes qui sont ici qui ont besoin de revenir à Dieu. Tu t'es éloigné de lui. Tu t'es éloigné de lui. Tu as passé dans des vallées. Des vallées de larmes ou des vallées de rébellion. Des vallées de colère parce que tu ne comprenais pas ce qui était arrivé. Ou des vallées de tentation où tu as minimisé, tu as diminué et minimisé avant l'impact. Les conséquences de la rébellion, de l'éloignement de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, l'ennemi voudrait le maximiser, voudrait que tu te trouves à une place où tu crois que maintenant tu peux pas revenir, tu peux pas rebâtir, tu peux pas revivre, et c'est pas vrai, c'est un mensonge. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu as été, David te dit, quand j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, des larmes, de la rébellion, de la colère, Dieu était là. Et j'ai pu revenir à lui. Si vous êtes ici, vous avez besoin de revenir à Dieu. Des gens qui sont rétrogrades parce qu'ils se sont éloignés même de Dieu, de l'Église, du peuple de Dieu. Je supplie, je te supplie, je plaide avec toi, reviens à lui ce matin. Mais d'autres qui sont ici, que tu peux être assis à chaque semaine dans l'Église, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Et ce matin, tu as besoin de revenir. Des gens qui sont ici ce matin, qui vont dire, pour la première fois dans ma vie, je veux recevoir Dieu personnellement. Je veux dire, il est mon berger, il est mon Seigneur. Et je veux lui remettre mes fardeaux. Je veux lui remettre mes échecs. Je veux lui remettre mes inquiétudes. Je veux le recevoir personnellement dans ma vie. Et je veux recevoir sa paix aussi. Je veux lui remettre. Je veux qu'il vienne loin de ma tête à moi d'huile. Je veux que moi, il vienne me faire cesser les tourments et les angoisses et les peurs. Je veux l'accepter dans ma vie personnellement. Je veux te promettre que si tu le fais, si tu fais ce pas vers lui, le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, va venir tout près de toi, te libérer, te décharger du poids que tu portais et te donner un nouveau départ, une nouvelle vie, te donner un nouveau pardon, une nouvelle grâce, être ton berger et ouvrir une vie nouvelle devant toi de pardon et de paix, et de puissance insoupçonnée que tu ne pourras pas avoir autrement qu'en lui. Alors si vous êtes ici ce matin, vous avez besoin de le reconnaître, ou de revenir à lui ou de le recevoir pour la première fois pendant que tout le monde prie, et tout le monde cherche Dieu. Je vais demander si vous êtes ici ce matin. Vous voulez le reconnaître, revenir à lui ou le recevoir. Je vais vous demander là où vous êtes, alors que la main de Dieu est tendue vers vous. Je vais vous demander là où vous êtes, de juste lever votre main pour dire, me voici Seigneur, moi je veux revenir à toi moi aussi.
partout à travers ce lieu. Je veux te reconnaître. Des jeunes qui vont dire, c'est mon matin, je veux reconnaître Dieu. Des hommes et des dizaines de mains partout dans cette salle qui se lèvent partout. Des couples, des personnes, des jeunes, des parents, des grands-parents qui lèvent leurs mains, qui disent, je veux revenir à Dieu. Je m'étais éloigné, mais je reviens ce matin. Je veux le reconnaître. D'autres dans ma famille et moi-même, j'ai toujours cru à son existence. Mais ce matin, je veux le reconnaître. Il n'est pas seulement l'Éternel, un berger, un Dieu, un Créateur. Il est mon berger, il est mon Seigneur. Et des gens qui veulent le recevoir pour la première fois. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas encore levé votre main, mais c'est vous. La main de Dieu se tend vers vous. Levez-la maintenant. Dis-moi, voici Seigneur. Dieu voit cette main. Et partout à travers ce lieu, des mains partout qui se lèvent. Vous la baissez maintenant parce que Dieu te connaît. Et Dieu sait tout de toi. Et Dieu t'aime. Et Dieu a un plan. Et Dieu va te consoler, t'accepter, te pardonner, te libérer. Alors voici ce que nous allons faire. C'est tellement magnifique de voir toutes ces mains qui se lèvent. À l'instant, dans un moment, nous allons chanter un cantique merveilleux. Je demande à toute l'Église de se lever comme une grande chorale avec nous, mais aussi comme une grande famille d'intercesseurs et de gens qui prient. Et pendant qu'on se lève ensemble et que nous allons chanter, tu es merveilleux. À l'instant où on commence à chanter, je demande à tous ceux qui ont levé la main. Dieu a vu ta vie, Dieu a vu ta main, mais il a surtout bien plus que ça, vu tout de toi, et il t'appelle à lui. Et je veux vous conduire dans une prière, je ne peux pas me rendre à chaque personne à sa place. Alors à l'instant où on commence à chanter, tous ceux qui ont levé la main, mais tous ceux aussi qui auraient dû lever la main, il y a quelqu'un près de vous qui a levé la main, dites-lui si tu veux, je m'avance avec toi. Il y a quelqu'un près de vous qui aurait dû lever la main, dites-lui si tu veux, sans le forcer, mais avec amour, lui dire je m'avance avec toi. Et à l'instant où on commence à chanter, tous ceux qui ont levé la main, venez. Venez vous tenir debout ici à l'avant face à moi. Vous ne venez pas vous joindre à une organisation ou un mouvement chrétien. Vous venez vous jeter dans les bras de Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras. Je me blottis.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.